Aujourd'hui, à la chronique, on va parler des différentes campagnes qui se déroulent au niveau international contre les dépenses militaires et contre le militarisme en général. Donc, on va tout d'abord parler de la campagne du World Peace Bureau. Donc, qu'est-ce que c'est, cette campagne-là?
Donc, le World Peace Bureau, c'est une organisation qui est basée en Suisse actuellement, qui a lancé un appel récemment à ce que les organisations pour la paix commencent à travailler spécifiquement sur la question de mieux faire comprendre à leurs citoyens l'importance des dépenses militaires. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on a des agences internationales comme les Nations Unies qui vont sortir des données sur les dépenses militaires mondiales ou le Stockholm International Peace Research Institute qui va sortir aussi des informations. On nous parle des dépenses militaires qui vont tourner autour ou qui tournent autour actuellement de 1,3 à 1,5 milliers de milliards de dollars, donc des trillions de dollars. Et dans l'esprit des gens, généralement, ça réfère à rien de ce qu'on connaît, là. C'est des chiffres qu'on appelle astronomiques et les gens ne peuvent pas saisir l'importance de ces dépenses militaires-là, là, quand on leur donne des données comme celles-là.
Comment faire en sorte que, justement, chez la population générale, il y a une lumière qui s'allume et qu'il y a un lien puis qu'on puisse saisir concrètement qu'est-ce que ça veut dire comme réalité? Par exemple, quel genre de comparaison on peut faire pour donner un ordre de grandeur de tous ces montants-là?
Oui, bien c'est ça. Depuis en fin de semaine, en fait, il semble que l'Alliance canadienne pour la paix a entendu l'appel du Bureau international et a commencé à réfléchir sur les mécaniques qu'on pourrait mettre en place pour que les gens puissent mieux saisir qu'est-ce que ça veut dire les dépenses militaires. Et semblerait-il que l'Alliance canadienne pour la paix va prendre des décisions. L'Alliance canadienne pour la paix est un réseau d'organismes pan-canadiens pour la paix. Plusieurs organismes et délégués québécois là, se rendent généralement à chaque 2 ans parce que c'est une conférence, c'est un congrès biannuel. Et actuellement, on réfléchit sur la façon de rendre ça concret pour les gens. Donc, il y a un travail qui doit se faire. Par exemple, on parle de la guerre en Afghanistan actuellement. Lors de la campagne électorale, on nous a avisé que le chiffre des dépenses militaires jusqu'en 2011, depuis le début du conflit en Afghanistan, tournerait autour de 18 milliards de dollars. Ça veut dire 7 200 000 dollars par jour de dépensés par le gouvernement canadien sur cette guerre-là. On parle d'un budget militaire, là, avec les augmentations de dépenses qu'on voit là, qui vraisemblablement, cette année ou l'année prochaine, va atteindre les 20 milliards de dollars par année. Ça veut dire 54 millions 800 000 dollars par jour de dépenses militaires canadiennes.
Ça semble quand même considérable. Puis, bon, ces temps-ci, on entend parler d'une crise économique, on se demande qu'est-ce que c'est, il y a des différents secteurs qui peuvent stimuler l'emploi. Puis, assez peu surprenamment, l'industrie militaire est présentée comme étant une des possibilités pour générer de l'emploi, pour aider un petit peu la situation économique qui va mal. Si on met en perspective tous ces montants-là qui sont investis dans l'armée, dans l'industrie militaire plus largement, il y a certainement tellement d'autres investissements qu'on pourrait faire qui auraient des retombées différentes sur la société. À quoi on pourrait comparer ça, par exemple, 54 millions par jour, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec?
C'est ça. En fait, ce que les gens ne disent pas très souvent, c'est que les dépenses militaires, c'est la façon la moins efficace de créer des emplois. Ce sont des emplois très spécialisés, à gros salaires, à haute technologie. La quincaillerie que tu as besoin pour être capable de produire des équipements militaires coûte extrêmement cher. Chaque emploi créé dans le domaine militaire va coûter à la société ou au budget, au trésor fédéral, entre 500 000 et 1 million de dollars par emploi. Donc, c'est énormément d'argent pour créer des emplois. Et d'un autre côté, actuellement, par exemple, si on se fie au Conseil canadien du développement social, des travaux, des recherches puis des compilations qu'ils ont fait au cours des dernières années pour essayer de chiffrer qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire des investissements sociaux constructifs pour la société. On disait par exemple qu'avec 600 millions de dollars, on pourrait créer jusqu'à 30 000 emplois dans les milieux communautaires. À environ, si on parle d'économie sociale, où il y a quand même des revenus de vente, des services et ces choses-là, on parle de 20 000 $ par emploi. C'est une énorme différence en termes d'investissement et en termes de coûts pour la création d'emplois. Avec 600 millions de $, on ne crée pas beaucoup. 100 à 200 emplois dans le domaine de l'entreprise militaire, mais on peut en créer 30 000 dans les milieux communautaires. C'est seulement que ces 10 jours de dépenses militaires et c'est environ 2 mois de dépenses en Afghanistan, pour la guerre en Afghanistan. Donc, c'est un impact énorme pour très peu de transferts de dépenses militaires à un secteur civil. Pour les mêmes montants, à peu près autour de 600-650 millions, on pourrait améliorer la condition, en fait, corriger minimalement la structure financière problématique des institutions postsecondaires à travers le Canada, là, pour un même montant, c'est-à-dire à peine 10 jours ou 10 jours de dépenses militaires du budget canadien ou 2 mois de dépenses en Afghanistan. C'est un montant à peu près équivalent autour de 600 millions de $. Puis avec un montant qui tournerait autour de 14 jours seulement de budget militaire ou 3 mois de dépenses en Afghanistan, on pourrait régler le problème de 20% de pauvreté, on pourrait réduire de 20% la pauvreté infantile au Canada, un budget qui tournerait autour de 850 millions de $. Donc, on peut voir l'impact négatif et contre-productif en situation de crise économique des dépenses militaires, et c'est un luxe qu'une société ne peut pas se payer.
Ça a certainement un impact assez important de faire en sorte que la population, en général, s'approprie ces chiffres-là puis puisse vraiment voir qu'est-ce que ça représente concrètement. C'est une étape importante, l'information à ce niveau-là. Si on veut penser à une stratégie contre les dépenses militaires, une stratégie de mobilisation d'information à plus grande échelle, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, quelles sont les différentes alternatives qui sont exploitées en ce moment?
Bien, en fait, il faut commencer à parler d'une forme d'économie de la paix, c'est-à-dire une économie qui est basée... faut comprendre que l'institution militaire est une institution qui se prépare, qui s'organise de façon à faire face à une éventuelle menace provenant d'un agresseur humain de l'extérieur du pays. Et c'est une organisation aussi qui vise à intervenir au niveau international par le recours à la force lorsque la situation dans des pays a dégénéré suffisamment pour faire en sorte de justifier le recours à des soldats, à des militaires et à des armes. Et tout le défi repose dans la recherche d'une alternative à l'intervention militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut commencer à réfléchir aux mécanismes non étatiques, citoyens ou d'organismes sans but lucratif indépendants comme la Croix-Rouge, par exemple. Comment ces organismes-là peuvent intervenir efficacement en prévention des conflits violents et faire en sorte de pouvoir éventuellement transférer les argents dans la prévention qui sont investis actuellement dans le développement des équipements d'intervention par la force.
C'est évidemment une démarche qui implique de reconvertir une bonne partie de notre industrie militaire, faire en sorte que les usines d'armement, par exemple, ou les usines du domaine de l'aéronautique dans la région de Montréal qui sont très liées au secteur militaire soient reconverties à des fins civiles. À quoi ça pourrait ressembler une stratégie de reconversion de l'industrie de l'armement?
Bien, en fait, on ne parle pas nécessairement autant de reconversion que de réfléchir en termes de société à un transarmement, c'est-à-dire passer d'une forme d'intervention par la force dans des situations de conflit violent, vers une forme d'intervention préventive avec des mécanismes de détection avancés, avec un engagement citoyen préventif au niveau, par exemple, des droits humains et des mécanismes d'alerte internationaux, et l'engagement civil pour désamorcer les situations de crise. Et là, on demande une foule d'expertises qui sont des expertises qui sont beaucoup plus du champ des communications, de la haute technologie, des industries Internet, du réseautage efficace, de l'intervention citoyenne basée sur une expertise professionnelle. Là, on parle de des psychologues, on parle de des spécialistes en désamorçage des conflits qui ont des formations légales au niveau du droit international, donc probablement des avocats. On parle de des spécialistes au niveau de l'analyse de la situation de précarité de la condition humaine pour comprendre les mécanismes qui vont faire ou qui peuvent faire émerger une situation de crise violente dans un pays. Donc, on parle de la mise en place de toutes sortes de mécanismes qui sont des mécanismes de type civil et non plus de fabrication d'équipements militaires pour avoir recours à la force.
Donc, en somme, c'est un raisonnement assez simple, c'est de dire que la meilleure façon de prévenir les guerres, c'est pas en investissant dans davantage d'armement, mais c'est en chercher des compétences pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation-là.
Effectivement, et en fait, les organisations civiles actuellement ont commencé à travailler sur ces questions-là. On a l'Institut, par exemple, de recherche pour la paix de Stockholm qui a commencé à travailler sur la question des mécanismes de détection avancée des conflits internationaux. Mais là, ils font face à un pépin, parce que où collecte-t-on les données pour être capable de faire en sorte de déclarer une alerte dans un pays de conflit violent? Et là, tout repose sur l'intervention citoyenne et la présence citoyenne dans les lieux à potentiel de violence, ce qui est un autre sujet pour une autre chronique.